Radio Barque donc, pour cette troisième partie, je le disais en tout début d'émission, notre invité est Frédéric Malquier, président de la FNAIM 66, c'est donc la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, monsieur Malquier, c'est ça?
C'est exactement ça, Jean-Claude. Nous sommes la première fédération française et européenne de l'immobilier, la Fédération Nationale des Agents Immobiliers. Agent immobilier, c'est une notion qui est assez large et parfois peu compréhensible pour notre clientèle, mais elle rassemble énormément de métiers. Nous avons des métiers de transactionnaires, des métiers de gestionnaires, des métiers d'administrateurs de biens, des métiers liés à la location de vacances, des métiers liés à la vente dans le neuf, des métiers liés au diagnostic immobilier, aux experts immobiliers.
Et tout ça, c'est sous le label agent immobilier.
Et tout cela, depuis 70 ans, notre fédération a été construite sur ce socle de valeurs d'éthique, de professionnalisme et de réactivité, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce premier syndicat français et européen de l'immobilier, dont je porte la casquette de président dans les Pyrénées-Orientales. Et cette fédération véhicule toutes ces valeurs au travers de l'ensemble de ces métiers qui font aujourd'hui la réussite de notre réseau.
Alors on va revenir en détail là-dessus. Je précise quand même que d'abord que si vous êtes là aujourd'hui, Frédéric Malquier, c'est parce que nous souhaitons avoir pendant cette période préélectorale des candidats à politique. Donc vous êtes là comme professionnel. Puis l'idée est assez ancienne pour ma part, puisque vous avez été élu, je crois, l'été dernier. Et à partir de là, j'avais eu on est dans les contre-regards, ce regard un petit peu ironique. Tiens, un gabatch, un arbonnais, parce que vous l'êtes, qui prend des responsabilités chez les Catalans. Comment cela se fait-il? Voilà, j'étais parti de cette notion-là. Je précise quand même, pour continuer la présentation, monsieur Malquier, que vous gérez avec votre frère l'Agence du Soleil, qui recouvre pratiquement le territoire littoral de l'ancien Languedoc-Roussillon.
C'est exactement ça, Jean-Claude. Nous avons un réseau d'agences immobilières qui est réparti sur les trois départements géographiques de l'ex-Languedoc-Roussillon, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, au travers de 23 agences qui nous permettent de traiter l'ensemble des demandes de notre clientèle, qu'elles passent de la gestion locative à la transaction et la location de vacances et tout ce qui draine et d'accessoires autour de ces activités-là. Donc on a cette présence et ce maillage géographique qui est extrêmement important et qui nous permet d'avoir une réactivité certaine, une célérité auprès de notre clientèle et qui fait notre force depuis aujourd'hui 50 ans d'existence, puisque c'est une société créée par mon grand-père, reprise par mon père, et aujourd'hui je suis et j'incarne la troisième génération avec un immense plaisir.
Alors c'est une profession qui apparemment a obtenu un label, une reconnaissance toute récente. Expliquez-nous ça, Frédéric Malquier.
Alors c'est très très important et je tiens à venir dans vos plateaux pour en attester et en témoigner. On depuis 70 ans que notre métier existe, hein, nous avons été soumis à de nombreuses lois. La dernière loi très importante et qui légifère sur le métier d'agent immobilier, c'est la loi de 1970, c'est la loi Auguet. Cette loi Auguet nous dit que pour être administrateur de biens, pour être agent immobilier, il faut détenir une capacité professionnelle pour pouvoir exercer ce métier et présenter des biens à la clientèle. Nous avons souhaité, au niveau de notre fédération des agents immobiliers, aller encore au-delà dans cette professionnalisation de nos métiers et intervenir auprès du gouvernement avec un lobbying très très fort de notre syndicat pour pouvoir obtenir un caducée. Un caducée, c'est une reconnaissance matérielle du titre d'agent immobilier qui existe également depuis peu. Reconnaissance du titre d'agent immobilier qui est une reconnaissance immatérielle, qui est un droit immatériel inscrit dans la loi. Et nous l'avons souhaité, à l'instar des notaires ou d'autres professions réglementées, avoir un caducée, qui est un drapeau que vous verrez, clientèle de nos départements et de la France entière, fleurir sur nos perrons de porte devant nos vitrines et qui confirmeront qu'en passant par un agent immobilier certifié FNAIM, à partir de là, vous rentrez dans un bureau d'un professionnel qui sera en mesure, parce qu'il a été formé, parce qu'il a le titre de profession réglementée, sera en mesure de pouvoir attester la valeur de votre bien, en mesure de pouvoir vendre votre bien, en mesure de gérer votre immeuble, de gérer votre appartement, de gérer votre résidence secondaire pour la mettre en location de vacances. C'est toute cette série d'éléments, tout ce faisceau d'indices qui concordent vers la notion d'un caducé, reconnaissance matérielle de nos titres d'agent immobilier et reconnaissance d'excellence.
C'est une sorte d'assainissement de la profession. Est-ce qu'il y a une déontologie liée à tout ça ?
Alors, très très bonne question. On est soumis depuis maintenant quelques années, depuis le fondement de la loi Allure, depuis 2014, à des obligations de formation professionnelle. Formation continue, et dans ces formations, tout agent immobilier certifié, détenteur d'une carte professionnelle, et pour obtenir le renouvellement de cette carte professionnelle, devra obtenir des heures de formation, 42 heures précisément, en 3 ans, dont plusieurs heures en déontologie, permettant d'avoir une éthique par rapport au métier, par rapport au maniement des fonds, puisque je le rappelle, on manie des fonds au titre de la gestion des biens de nos clients, copropriétaires, bailleurs, locataires, des dépôts de garantie, des appels de fonds au titre des charges de copropriété. Et tout cela se devait d'être vraiment certifié par cette reconnaissance d'un caducé et d'un titre d'agent immobilier profession réglementée.
Alors donc, agent immobilier, ça veut dire que vous travaillez sur le logement, un bien qui concerne absolument tout le monde. Il serait bien d'essayer d'expliquer un petit peu chez nous ce qu'est le logement, peut-être comparativement à d'autres régions. On va peut-être aborder également les prix, un certain nombre de choses. On sait aussi, c'est une la palissade, de rappeler qu'il y a une cinquantaine d'années, il y a eu un grand bouleversement avec l'aménagement du littoral qui a créé un type d'immobilier particulier. Quel est le bilan aujourd'hui? Enfin, quels sont les différents secteurs auxquels vous avez affaire, Frédéric Malquier ?
Alors, on a, ce qui est très très bien, c'est comme vous l'indiquez, Jean-Claude, on a une région qui est extrêmement attractive, premier point. On est la première démographie française et européenne en la matière, ce qui nous permet d'attirer de plus en plus de chalands, de plus en plus de clientèle. Notre clientèle n'est pas une clientèle locale, n'est pas une clientèle régionale, c'est une clientèle française, voire internationale, voire européenne plutôt. À partir de ce constat, on s'aperçoit que on a de plus en plus de demandes, ce qui fait que nos villes de la région Languedoc-Roussillon sont en tension permanente. On a beaucoup de mal à satisfaire la demande locative ou la demande de biens à l'achat. Et à partir de là, nous avons un besoin, comme vous l'indiquez, Jean-Claude. La région a été construite sur les fondements du général de Gaulle, il faut le rappeler.
Oui, l'aménagement du littoral,
il y a 50 ans, la mission Racine, exactement ce que j'allais dire. La mission Racine a développé et a créé toutes nos villes côtières, en passant par la grande de Motte, en passant par Port-le-Cat et Port-Barcarès, des villes qui n'existaient pas, qui étaient des marais salants, et on a voulu arrêter l'exode de tous nos touristes vers la Costa Brava, les côtes espagnoles, et donc cette construction a été nécessaire. Aujourd'hui, on est sur ces acquis-là qui font que nous sommes une des premières régions positives en termes de tourisme français, mais par contre, nous devons nous adapter, et d'où la nécessité de renouveler notre parc, d'où la nécessité pour les promoteurs de prendre de plus en plus de parts de marché et de construire pour répondre, je le dis, à cette tension permanente. On le voit dans nos agences et je le vois au niveau de mes adhérents dans les Pyrénées-Orientales. Je m'adresse à des confrères dans l'Aude ou également dans l'Hérault. Nous avons très peu d'offres à donner à la clientèle. Et donc à partir de là, nous sommes en carence de biens. Donc, il faut vraiment que nous puissions satisfaire cette demande, et ça passe par un renouvellement du parc pour satisfaire cette demande et pour correspondre à l'idée que les Français se font de notre région, qui, grâce à l'héliotropisme, grâce à la proximité de l'Espagne, grâce à la proximité des Pyrénées catalanes ou audoises avec les stations de ski, je pense à tous mes confrères qui exercent dans les hauts cantons, en Cerdagne, en Cap-Cyr.
Oui, il y a également les sports d'hiver qu'il ne faut pas oublier.
Les sports d'hiver, une très très belle activité. Et à partir de là, nous devons répondre à cette demande-là pour avoir dans les 30 prochaines années toujours ce leadership en matière de tourisme.
Oui. Et alors, à propos, vous parliez, Frédéric Malquier, de renouvellement. On sait que ce qui avait été construit dans les années 60-70, c'était parfois de l'habitat assez rapide, saisonnier, pas très confortable et pas très adapté à une vie sédentaire plus longue. Aujourd'hui, qu'en est-il ?
Alors, on a remarqué, et ça c'était grâce à l'apport des nombreuses lois défiscalisantes qui ont permis, notamment sur les villes principales, que sont Perpignan, Narbonne, Béziers et Montpellier, de satisfaire une demande d'acheteurs souhaitant défiscaliser, au titre des régimes de défiscalisation que le grand public connaît, le dispositif Cellier, le dispositif Pinel, le dispositif Duflot, et tous ces dispositifs-là ont permis d'améliorer le confort de nos habitants, d'améliorer le logement, parce qu'on se dirige vers des logements normes RT 2012, des logements BBC, qui répondent...
Explication ?
Alors, ces critères de normalisation des logements répondent à des obligations d'avoir des logements qui soient le moins calorifugène possible, des logements qui soient les mieux isolés possible, et donc ils répondent à des cahiers des charges très précis que les promoteurs doivent respecter, RT 2012, normes BBC, BBC basse consommation, et à partir de là, nous avons des logements qui sont très intéressants pour la clientèle, et on le voit d'ailleurs, on a un repli de la part de nos locataires, des logements anciens vers des logements neufs. Ils souhaitent prendre possession de ces logements neufs, qui en plus, dans des régimes de défiscalisation, ont des loyers plafonnés. Et à partir de là, on peut se loger à un tarif très intéressant, en faisant des économies d'énergie, dans des logements neufs, que l'ensemble des adhérents de la FNAIM, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et de toute la France entière, vont proposer.
Alors l'attractivité justement que vous soulignez, Frédéric Malquier, c'est plus seulement le littoral. Apparemment, les gens ont aussi envie de s'installer dans les villes.
On a une urbanisation qui est constatée depuis quelque temps de plus en plus importante. On le voit, les grands axes et les grandes métropoles dont font partie nos quatre villes principales du Languedoc-Roussillon, je mets également Nîmes dans la boucle, sont des régions extrêmement attractives. Il y a une urbanisation qui est croissante. On le voit, par exemple, je prends l'exemple de Montpellier. Montpellier regroupe à elle seule 56% des grues de la région Languedoc-Roussillon.
Actuellement ?
Actuellement, ce qui est extrêmement fou et démentiel.
Plus de la moitié ?
Plus de la moitié, 56% selon les dernières statistiques de la Fédération des promoteurs immobiliers et de l'INSEE. Donc on voit un regroupement dans ces métropoles. Les organismes de communautaires type agglomération ont tendance à faciliter les déplacements de la population permettant à ces personnes de venir habiter en ville. Donc il y a véritablement une envie d'habiter en ville pour ces gens.
Oui, une question, Michel.
Oui, une question. Est-ce que... Ce que vous venez d'écrire à l'instant n'est pas contradictoire avec une logique, une transition en fait économique qu'on voit bien arriver en fait, et qui sera aussi urbaine et qui va obliger en fait les différents politiques, quel que soit leur statut, de lutter contre l'étalement urbain, contre la périurbanisation.
Alors Frédéric Malquier,
d'une certaine manière, un retour en fait sur les centres-villes, sur les résidences en fait densifiées, faites en hauteur, etc. Ça ne peut pas venir, ce mouvement de marché, non ?
On le constate, mais après, ça, on est plus focalisé sur les centres-villes. Les gens, par ces facilités de nœuds de communication et de transport, vont dans des zones périurbaines et en très très proche transfrontalité avec les villes. Donc on le voit par exemple, si je prends l'exemple de Perpignan, vous avez des villes comme Villeneuve-la-Raou, comme Saleil, comme Cabestany,
qui ont explosé.
Et donc on a des croissances démographiques qui sont folles, parce qu'il y a également la qualité de vie, mais parce qu'il y a aussi des facilités de circulation et de transport public. On le voit à Narbonne. Mmh. Des villes comme Montredon sont en train de se développer. Bon, après, il y a également d'autres idées avec les créations des pôles médicaux ou autres. Mais tout ça fait qu'on n'est plus à la recherche précisément d'un bien en centre-ville. On est à la recherche d'un bien, d'une facilité de circulation et de communication avec le centre-ville.
Oui, mais un mode de vie finalement moderne, basé notamment sur la voiture, sur l'automobile. Et alors, est-ce qu'on peut dire, à cause de cette attractivité, que le logement est cher chez nous ?
Alors, on a une chance, hein, pour tous les habitants du Languedoc-Roussillon. On fait partie, malgré cette énorme croissance, malgré cette attractivité touristique, on a une des régions les plus accessibles en termes d'immobilier. Et ça, c'est un point extrêmement positif, que ce soit en termes de loyer, qui se situe aux alentours de 9 ou 10 euros le mètre carré, selon les typologies de logements, selon les caractéristiques, selon les emplacements.
Ça, c'est pour les villes que vous parlez?
Ça pour les villes. Et donc, on a véritablement... et également au niveau de la transaction, en termes de prix au mètre carré, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, qui est mon département de tutelle, on vend à hauteur de 1 700 euros le mètre carré dans tous les Pyrénées-Orientales. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement vous loger, et Narbonne fait partie également de cette facilité-là, même si les prix au mètre carré commencent à augmenter, mais expliqués par une qualité de vie qui est importante. Béziers bénéficie également depuis quelques années d'une très forte attractivité à nouveau, où on a beaucoup de Biterrois qui étaient partis et qui reviennent habiter le centre-ville, et Montpellier, comme je le disais, qui est la locomotive régionale, et où là, par contre, on a une tendance assez haussière, et où les prix commencent à tutoyer des sommets. On verra comment ça pourra se passer.
Oui, donnez un exemple sur Montpellier. Alors, 1700, c'est une moyenne, mais sur Montpellier, ça serait quoi?
Alors, comme je disais, les Pyrénées-Orientales sont à 1700 en moyenne. L'Aude, on va se situer aux alentours de 2000-2200 avec des pointes sur la Narbonnaise et les quais, par exemple, les quais de la Robine.
Donc l'Aude serait plus cher que les PO?
L'Aude, sur la partie du moins est, est un peu plus cher que les PO. Carcassonne est un peu derrière. Mais par contre, après, Béziers est en train de remonter. Béziers a souvent été décrit comme la belle endormie qui a fini par se réveiller. Et Montpellier, comme je vous disais, quand des villes comme les nôtres vont vendre à 2500 ou 3000 euros le mètre carré, Montpellier est capable de vendre à 5, 6, 7000 euros le mètre carré.
Ah oui, quand même, on n'est pas encore tout à fait à Paris, mais on s'en approche.
On a tendance à s'en rapprocher, et comme on le disait, comme Michel le disait, on a une urbanisation qui est très importante, on le voit, et à partir de là, le logement se tend. On a très peu de rotation du parc immobilier français. Aujourd'hui, il faut savoir que 3,3% du parc immobilier français est soumis à 20 annuel. Donc à partir de là, on a beaucoup, beaucoup plus d'acheteurs qui, en plus, je le répète, c'est un moment idéal pour continuer à investir et à acheter en termes de résidence principale ou secondaire, car les taux sont toujours historiquement bas. Vous empruntez aujourd'hui à 20 ans aux alentours de 1%. Mmh. La banque française, la banque centrale française et le gouvernement français empruntent à taux négatif sur 10 ans. Donc on continue à en profiter. La tendance de la Banque centrale et des divers organismes en la matière nous confirme que nous allons avoir encore une excellente année 2020 en termes de taux d'intérêt et de facilité de rentrer dans le crédit pour la plupart de nos concitoyens.
Oui, on reviendra sur les perspectives et l'avenir tout à l'heure pour conclure, mais un mot également sur ce point-là. On sait que, par exemple, en France, les voitures, enfin les automobilistes se disent continuellement ponctionnés avec le prix de l'essence. On a l'impression aussi parfois qu'en ce qui concerne l'immobilier, ça devient un petit peu la vache à lait pour certains élus, puisque la taxe foncière, les taxes foncières ont augmenté, je crois, de plus de 30% en une dizaine d'années, c'est-à-dire bien au-delà de l'inflation.
Alors, on a eu ce phénomène un peu pervers par la taxe foncière qui a augmenté avec l'intégration des organisations de communautés, les agglomérations qui ont ponctionné leur part, puisqu'il y a une part qui revient à la mairie, une part qui revient à l'agglomération et une part qui revient au département, et je crois à la région aussi. Donc ce qui fait que on a cette part-là qui a augmenté, mais ce qui est bien, c'est que le gouvernement Macron a annoncé une série de mesures importantes pour redonner confiance, même si il n'y avait pas de perte de confiance, je tiens à le souligner encore, hein. On est la valeur refuge. En 30 ans, l'immobilier a pris 4000% d'augmentation. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va investir sait que cette courbe d'augmentation exponentielle va continuer à progresser et permettra aux clients d'avoir une sécurité patrimoniale qui ne peut exister qu'avec l'immobilier.
Oui. Parmi les mesures prises par Monsieur Macron, il y a la suppression progressive de la taxe d'habitation.
La taxe d'habitation, je confirme, qui se fait par palier avec les revenus les plus modestes qui sont concernés en 2019. Après, derrière, en 2020, une deuxième tranche. Et à partir de 2021, on aura la suppression totale de la taxe d'habitation.
Une dernière question, Frédéric Malquier. Justement, vous parliez d'avenir souriant, pas optimiste. On sait évidemment qu'aujourd'hui, on est en plein coronavirus avec un certain nombre de conséquences probablement difficiles. Est-ce que ça change un peu votre logique ces derniers jours et l'avenir ?
Alors, depuis les annonces du président de la République hier soir, nous avons monté une cellule de crise au niveau de la FNAIM. Nous sommes en contact permanent avec les institutions et les gouvernements, le gouvernement français, pour pouvoir voir qu'est-ce qui va être mis en place en termes de report de paiement des charges, en termes de report de toutes les charges obligatoires, voir comment ça se passait avec les salariés de l'intégralité de nos adhérents, puisqu'aujourd'hui la FNAIM, c'est environ 10 000 entreprises qui représentent quasiment 40 à 45 000 emplois.
Sur la région
sur la France entière. Donc nous avons des activités qui sont très fortement impactées par le coronavirus. Je pense à la location de vacances. Les gens sont en attente de voir quelle est l'évolution et la propagation de la pandémie pour pouvoir réserver ou non leurs vacances. Donc il risque d'y avoir du chômage partiel, télétravail ou prise de congés forcés. On va voir un petit peu comment ça se passait dans le temps. Nous sommes en relation, comme je vous disais, avec les institutions. Mais après, je tiens quand même à rassurer la clientèle et l'intégralité de la population relative à ces questions immobilières. L'immobilier ne va pas perdre sa valeur, ne va pas tomber comme un ballon de baudruche.
Ça fera pas comme la bourse.
Ça fera pas comme la bourse. C'est cette idée-là. La bourse, la semaine dernière, était à 6 000 points. Aujourd'hui, elle est à 4 000. Elle a dévissé de quasiment 20 ou 25% en l'espace de 15 jours. Et que va nous dire l'avenir ? On ne sait pas. L'immobilier, cette valeur refuge préférée des Français et qui en plus est une valeur obligatoirement nécessaire pour la plupart, pour nos clients, puisque c'est un besoin de logement, c'est un besoin primaire. Vous avez deux besoins primaires dans la vie, le logement et la nourriture.
Et la nourriture. Donc on sait que de ce point de vue-là, c'est une valeur refuge et que ça le restera.
Je le confirme.
Merci Frédéric Malquier d'être venu donc faire un petit peu le tour de la question et je le rappelle sur un sujet apolitique, élection oblige. Merci donc d'être venu nous apporter cet éclairage professionnel. Nous resterons également dans la politique entre guillemets la semaine prochaine où nous parlerons rugby avec Gilles Belzon, président, un des présidents du Racing Club Narbonnais. On a enlevé la Méditerranée, du Racing Club Narbonnais aujourd'hui. Après quoi, bien sûr, nous reprendrons notre cours avec des invités plus politiques. Merci Frédéric Malquier, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci à toute l'équipe.